RCC, avec la boutique Lunatique de Calvi, mais aussi Losamax, le site des paris sportifs pour les losers, et la Corsican International Federation of Football de Calvi présente La Catastrophe.
RCC se met à l'heure de la Coupe du Monde 2022. Quelques semaines avant l'événement, nous lançons nos meilleurs spécialistes. Débats, pronostics, commentaires de match en direct. RCC sera sur tous les fronts. François Colombani aussi.
Et ça y est, la troisième édition de La Catastrophe. Alors aujourd'hui, on reçoit du beau monde. On reçoit...
Une légende.
Une légende, et oui, qui a fait gagner Calvi quand même. Hein. Donc, c'est pas n'importe quoi. La Coupe de Corse à Calvi, on l'avait jamais gagnée.
Oui.
Et il a fallu l'arrivée de Didier Santini. Alors on va l'appeler tout de suite, immédiatement.
Le téléphone sonne, c'est parti.
Allô Didier, est-ce que tu nous entends?
Oui.
Est-ce que c'est parfait au niveau du son?
Il y a trois micros, Nagui, je te rappelle.
Est-ce que tu peux parler un peu plus fort?
Ouais, vous m'entendez là?
Ah, parfait, nickel.
Je n'avais pas vu qu'il avait mis le micro.
Déjà, merci de répondre à ma sollicitation pour cette émission spéciale Coupe du Monde. Alors je rappelle aux auditeurs quand même... que tu es l'entraîneur des deux titres de Coupe de Corse de Calvi, quand même. Hein.
Ouais.
Alors, ces petits souvenirs, ils restent toujours ancrés un petit peu en toi?
Oui, ça sera toujours ancré. C'est même presque les plus grands souvenirs des victoires, mais de la fête après. Mais il y a eu trois victoires. Il y a eu la CAB, Bonifacio et Ilrousse à Ilrousse.
Alors, je rappelle quand même, ancien pro aussi, hein, OM, Sporting, Lille, on n'a pas affaire à n'importe qui aujourd'hui, hein, on a du lourd. Alors,
ouais.
L'émission, elle est vraiment basée sur la Coupe du Monde qui aura lieu dans un pays que je ne citerai pas, parce qu'on boycotte un petit peu le nom du pays, d'ici moins d'un mois. Si je te parle de Coupe du Monde, quel est le premier souvenir qui te vient comme ça?
98,
la victoire de l'équipe de France face au Brésil.
Ouais.
Donc,
ouais, c'était la première, elle était magnifique.
Toi, tu étais encore joueur?
Ouais, je jouais à Toulouse. J'ai vu la finale, mon frère était venu en vacances dans la région, à Albi, sur la place d'Albi. Ouais. Je jouais à Toulouse, j'avais vu un ou deux matchs à Toulouse, j'avais vu la Chine contre l'Uruguay, le Paraguay, je ne me souviens plus exactement ce que j'avais vu.
Et ouais. En tant que, puisque toi tu étais dans le monde pro, est-ce que tu pensais que la France allait aller au bout, puisque les matchs amicaux avant la Coupe du Monde avaient été assez poussifs quand même, hein?
Ouais, parce que des matchs amicaux, vous savez, les matchs amicaux, je pense que depuis ce jour-là, je n'ai plus l'équipe, j'ai plus jamais acheté l'équipe, les journaux. Non mais c'est vrai, en plus de ça, je trouvais que c'était indécent de critiquer autant un entraîneur qui faisait de belles choses, il y avait une belle équipe, après ils ont tenté des choses et puis bah, tout, ouais, ça a bien marché pendant le mondial, et le plus important c'est la compétition, c'est pas les matchs amicaux.
Alors est-ce que c'est pas le mal français finalement, hein? Les médias, alors, on n'a pas la puissance de feu que peuvent avoir les médias anglais, hein, qui sont très durs aussi, les médias italiens, mais ils sont quand même patriotes, contrairement à la France.
Ouais, peut-être. C'est vrai que ayant joué aussi un peu en Angleterre, ils sont pas toujours évidents, même en Italie, tout ça, ils sont très 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 durs. Mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus patriotes et que nous, on aime bien dès qu'on a quelque chose qui fonctionne, à la place d'essayer de le faire marcher, de le détruire, quoi, dans tous les sports déjà.
Alors, est-ce que pour toi, la Coupe du Monde, c'est vraiment le moment phare d'une vie de football, où tu mets cette compétition à part et tu trouves que y a mieux?
Non, au niveau du football, je pense pas qu'il y a mieux. Je pense que c'est tous les 4 ans. C'est vrai que c'est un peu espacé. Mais pour un joueur de foot qui a les meilleurs joueurs et qui, quand ils y arrivent, c'est l'apogée. Même pour nous, spectateurs et nous, entraîneurs ou joueurs à l'époque, on attendait ça avec impatience de voir notre équipe nationale jouer ou pour l'équipe pour qui on est. Et ça, c'est assez extraordinaire. Après, ouais, je pense que dans le football, il n'y a pas plus haut, quoi. Après, en dessous, même pas les JO pour moi au niveau football. Hein. Mmh. Les JO, c'est important. Après, après tu peux avoir la Champions League, mais la Coupe du Monde, c'est l'apogée, quoi.
Alors, je vais te faire une petite annonce. Ça, c'est les bookmakers. ce qu'ils annoncent au niveau des favoris. En tête, le Brésil, suivi de la France. Après, il y a l'Angleterre. Tout de suite en bas, beaucoup plus loin quand même, il y a un trio Argentine, Espagne, Allemagne. Et encore plus bas, il y a un autre trio Pays-Bas, Portugal, Belgique. L'ancien finaliste de 2018 n'y est pas, hein, dans les 10 premiers, la Croatie. Est-ce que tu penses que les bookmakers sont dans le vrai? Oui, hein, les gros vont être au rendez-vous.
Ouais, je pense que les gros vont être au rendez-vous. Maintenant, je pense que c'est aussi une Coupe du Monde à part par rapport à la date. Donc ça veut dire que les joueurs ne vont pas arriver du tout dans la même préparation qu'ils arrivent d'habitude en Coupe du Monde au mois de juin-juillet, puisque là, ils ont souvent des préparations de entre 3 et 4, plus de 4 semaines. Ils partent en montagne, ils font des stages, ils reviennent. Et là, ils ont une semaine. Donc c'est vraiment comme si c'était la suite d'un championnat, en espérant que, surtout pour la France, qu'ils se blessent moins sur les 15 prochains jours, ce qui reste encore, je crois, 2 matchs pour chaque joueur de championnat. Et on sait que toujours avec la pression, c'est toujours dangereux. Donc c'est vrai que Didier Deschamps, déjà la liste, ça leur dit, est blessé. Mais bon, il n'y a pas que la France, il y a pas mal d'autres clubs, d'autres sélections, il y a des joueurs blessés. Et c'est vrai que la date, pour moi, gâche un peu la Coupe du Monde.
Alors d'ailleurs, puisque toi, tu es quand même entraîneur, comment tu appréhenderais un petit peu cet événement? Parce qu'effectivement, tu as les personnes pendant 10 jours avant l'événement. Déjà, il faut faire en fonction des blessures, comme tu l'as dit. Est-ce que là, on est juste sur du technique, du tactique, ou on essaie quand même de récupérer un petit peu de foncier? Non, les joueurs sont censés être...
Non. Écoute, normalement, la période où ils arrivent là, au mois de décembre, c'est le novembre-décembre, c'est le moment où dans le foncier, ils sont le mieux.
Ouais.
Puisqu'ils ont bouffé toute la prépa du mois de juillet... Et les premiers matchs ou de septembre, où des fois, t'es pas toujours à 100%. Donc là, ça va être surtout, je pense, tactique, technique, reparler. Bon, technique pour ces joueurs-là, beaucoup moins, mais tactique, mettre les choses en place, voir son projet de jeu, comment il va vouloir jouer, est-ce qu'il va jouer à 3, est-ce qu'il va jouer en 4-3-3. Peut-être même de la récup pour certains. Donc, t'as toujours un travail avec les prépas physiques, de la récup, mais où tu peux travailler un petit peu ton foncier. Mais je pense que certains vont devoir récupérer, parce que certains auront joué tous les 3 jours, très, très souvent. C'est vrai que quand tu joues en équipe de France, quand tu joues en équipe d'Espagne, d'Allemagne, d'Angleterre, c'est que tu joues souvent la Champions League et tu joues tous les 3 jours et il va falloir qu'ils récupèrent parce qu'ils ont juste une semaine, ils partent et ils jouent pour les matchs. Voilà, c'est une Coupe du Monde un peu à part, ça peut se jouer aussi là-dessus, ça peut se jouer l'équipe qui va arriver la plus fraîche avec les joueurs les moins fatigués.
Alors oui, il reste, puisque le compte à rebours a commencé, hein, les listes tombent approximativement entre le 8 et le 11, hein. La France, c'est le 9. Il reste 3 matchs d'ici là pour les joueurs qui prétendent, hein, à jouer à la Coupe du Monde. Hein. Donc c'est vrai que le compte à rebours est lancé. Hein, on a peur. Enfin, je pense que les sélectionneurs doivent être terrorisés sur ces 2 matchs de championnat et celui de Ligue des Champions qui reste. Est-ce que tu as un favori sur cette Coupe du Monde?
Non, moi j'espère la France. J'espère que la France, par rapport à, sera là, mais j'espère que ça sera une belle Coupe du Monde. Maintenant, j'attends vraiment ce truc. Je le regarde en tant que spectateur. J'ai toutes ces images depuis tout petit, l'été, les bars, être dehors, la ferveur populaire. Là, jouer dans cette époque-là de l'année, je pense que ça va manquer un peu de saveur. Mais j'espère que la France va arriver à trouver un bon fonctionnement et que sur les 3 prochains matchs, les joueurs ne se blessent pas trop. Quoi.
Est-ce que tu as une équipe, je suppose que bien sûr tu regardes les matchs, est-ce que tu penses qu'il y a une équipe qui va flancher, un flop qui serait annoncé?
Ouais, c'est hyper dur, je trouve, d'annoncer ça comme ça. Parce que tout se joue, tu vois, les Anglais, à une époque, si tu m'avais dit en été, j'aurais dit non. Et puis après, tu te dis, tiens, les Anglais, c'était à part la Coupe du Monde qu'ils ont gagné chez eux il y a très très longtemps, dans les années 60. Ils sont pas arrivés au bout, ils sont jamais arrivés au bout. On sait qu'ils sont toujours costauds dans les périodes de Noël.
Oui, les footballeurs anglais, parce qu'ils
ont, ils ont une habitude de jouer vraiment en Boxing Day, de jouer dans toutes ces périodes-là, de jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc peut-être qu'ils vont le montrer dans ces attitudes-là, parce que nous, en France, on n'est pas habitué à jouer novembre, décembre, tous les 3 jours, ou dans beaucoup d'autres pays. Hein. alors qu'on a des enchaînements de matchs hyper importants. Donc ça, ça va jouer aussi énormément, je pense.
Et toi qui as été, alors je rappelle un petit peu, hein, alors je sais pas si c'était consultant, entraîneur au niveau de la Chine des U19.
Entraîneur.
Entraîneur. Est-ce que tu penses qu'il y a un pays, alors dit exotique, alors je sais pas si le terme est bon, bien choisi. En tout cas, pas un pays européen ou un d'Amérique du Sud, hein, ceux qui les ont tout emportés. Est-ce que tu penses qu'il y a un pays exotique qui peut faire une grosse performance?
Bah, c'est toujours plus dur. Je pense qu'un jour, une équipe va y arriver, un pays africain où il y a beaucoup de joueurs jouent en Europe, en Espagne, en Angleterre, en Italie, en France. Mais c'est des fois, je sais pas pourquoi c'est plus dur, peut-être parce que je sais pas, c'est vraiment compliqué de se dire, tiens, t'as des équipes qui ont joué avec Drogba, tout ça, tous les joueurs jouent dans les plus grands clubs européens, pourquoi ils arrivent pas loin? C'est vrai que c'est beaucoup plus les pays européens et le Brésil et l'Argentine, les pays, donc statistiquement, ça va être dur pour un pays exotique.
Alors, c'est aussi la Coupe du Monde. Des adieux avec des grands joueurs qui vont très certainement arrêter au niveau des compétitions internationales. Donc on parle de Cristiano Ronaldo, Messi, peut-être Benzema aussi, hein, puisqu'il a 34 ans, 35 ans. Éventuellement Giroud, on reparlera du petit cas Giroud-Benzema, de ce choix-là, des Suarez, les Cavani. Est-ce que là aussi c'est un truc en plus pour aller regarder cette Coupe du Monde, de voir la dernière compétition de ces joueurs-là?
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de... Déjà, c'est une belle chose de s'ils finissent tous leur carrière internationale. Internationale, on parle bien.
Oui, oui.
Parce que la Coupe du Monde sera qu'en 80, après 4 ans plus tard. Donc, pour certains, ils auront 39, 40 ans, on sait jamais. Mais international, après, ils continueront à jouer. Mais c'est vrai que pour les gens qui aiment le football et qui ont été depuis bercés par tous ces joueurs, les Ronaldo, les Messi, après, ouais, les joueurs français, les... J'ai jamais été un grand fan de joueurs de football étant moi-même footballeur, mais moi le jour où il a arrêté le football, j'étais triste, quoi.
Alors, sur le débat franco-français, en tant qu'entraîneur, aujourd'hui, au lieu de 23, les sélections peuvent monter à 26, donc ça donne 3 joueurs en plus. Il y a un petit côté gestion un peu plus compliqué, forcément, puisqu'il y a 3 joueurs en plus qui ne joueront pas. Giroud, on le prend ou pas?
Ah, je le prends, ouais. Ouais, je le prends. Je le prends parce que c'est un choix déjà humain, c'est un choix de mec qui a fait pour la France depuis des années, puis c'est un choix tactique aussi, parce que c'est un joueur que t'as pas, c'est un grand joueur qui peut te servir de pivot, qui peut complètement changer. Et contre la dernière Coupe du Monde, il a joué tous les matchs, il n'a pas marqué un but, mais il a créé des espaces, il a permis beaucoup de choses, les gens ne voient pas toujours tout ça. Je pense qu'il peut servir et qu'il a aussi compris qu'il n'était plus numéro un et que si Karim Benzema est en forme, c'est lui qui va jouer, ce qui est tout à fait normal. Et je pense qu'il faut le prendre. Ouais.
Alors, s'il y avait une finale rêvée, celle que tu as dans le coin de la tête et que tu espères, ce serait laquelle?
France-Brésil.
France-Brésil. Donc, tu te rapproches exactement de ce que disait Thierry Ricaud. Thierry, qui était venu lors de la première et qui nous a annoncé, oui, France-Brésil, voilà, ce serait quand même...
Ouais, je sais pas s'ils peuvent se rencontrer avant, j'ai pas regardé les tirages selon les classements au départ, mais ouais, je pense que le Brésil, là, c'est une grosse équipe, la France, après, il y a même France-Argentine, moi, j'aimerais que Messi, si la France n'a pas gagné, j'aimerais que Messi gagne cette Coupe du Monde, quoi, pour lui.
Alors, oui, alors, si tu avais un chouchou en dehors de la France, ce serait que Messi puisse
bah, lever... Si la France n'y arrive pas, oui, parce que je pense que pour l'ensemble de sa carrière et pour le monstre de joueur qu'il est, il a tout gagné, sauf ça. Il est arrivé enfin à gagner la Coupe championnat d'Amérique du Sud, ouais. Avec l'Argentine, c'est la première fois. Il avait échoué, je sais pas combien de fois en finale. Là, voilà. Maintenant, il faut que la France n'y aille pas, quoi.
Alors, est-ce que maintenant qu'on a un petit peu fait le tour sur cette Coupe du Monde, est-ce que tu peux nous dire un petit peu là actuellement, il n'y a pas de club?
Non, j'ai arrêté il y a un petit mois là avec Saint-Brieuc, voilà, d'un commun accord, il fallait.
Donc on arrive sur une période pour les entraîneurs et les joueurs, voilà, la période de rotation. On a des petites touches. Alors tu vas pas nous dire, on va pas rentrer dans le secret des dieux, mais est-ce qu'il y a des petites touches?
Non, j'ai des idées de ce que je veux faire et ce que je veux plus faire.
D'accord.
Mais non, je croise pas les doigts pour que l'entraîneur se plante pour prendre la place. Les choses viendront. J'ai eu deux touches de personnes qui m'ont appelé, mais voilà, ça m'intéressait pas. Je préfère un club structuré, travail ici en France, au continent,
structuré,
professionnel. Comment ?
Dans le championnat français, quelle que soit la division.
Oui, bah après ça peut être à l'étranger. Après à l'étranger, j'ai eu la chance de partir en Chine avec Patrick Gonfalon, qui était mes tuteurs au DEPF, et je me suis régalé. Mais bon, après c'est vrai que le Covid, malheureusement, pendant deux ans, ça a été une grosse galère. Ça s'ouvre un peu plus maintenant aux frontières. Donc si un jour je dois repartir avec lui ou ailleurs, je le ferai. Avec plaisir, parce que c'est découvrir dans des pays, une culture, découvrir un football, travailler, c'est assez extraordinaire aussi de partir très loin.
Question B, quand j'ai décidé. Toi qui es resté sur place là-bas, est-ce que, bon, il y a une population incroyable, une discipline très certainement et des moyens que tu n'as pas dû rencontrer en France, hein. Je suppose, hein, en tout cas, hein, s'ils ont la volonté de vraiment mettre tous les moyens. Est-ce que tu penses que dans un avenir, alors c'est plus à moyen ou à long terme, il pourrait arriver à des performances assez importantes ?
Ouais, très très long terme.
Le niveau est faible ?
Ouais. Non, mais c'est tellement grand que c'est compliqué. C'est tellement grand que c'est compliqué à gérer. Il y a des... Il faut imaginer que la Chine, c'est plus grand que l'Europe, et que si tu as un joueur qui joue à Bastia, tu as un joueur qui joue en Angleterre, un qui joue en Norvège, un qui joue un truc, c'est immense. C'est pas toujours structuré au niveau des centres de formation, c'est aussi culturel. Tous les joueurs binationalité ne peuvent pas jouer dans les championnats. Les championnats commencent très tard en Chine, à partir de 14-15 ans, il y a des championnats. Avant, c'était vraiment qu'à l'école, quoi.
D'accord.
Donc c'est un peu des centres de formation, il faut changer beaucoup de choses, et puis les systèmes fait que voilà, c'est jamais évident. La Chine en 98 a été bien lancée, et je pense qu'elle a perdu de sa splendeur à ce moment-là dans le football. Elle croyait un peu qu'elle était peut-être arrivée au bout, et pourtant il y avait des grands entraîneurs derrière. Moi j'ai eu la chance quand j'étais en Chine de rencontrer Marcelo Lippi, qui était entraîneur d'équipe nationale. Là, c'était phénoménal, mais des fois c'est compliqué, puis c'est tellement grand.
Ne serait-ce que pour détecter,
pour détecter. Moi, je l'ai fait. On avait l'équipe nationale 19. C'est impressionnant, quoi. Quand tu restes dans une région, c'est comme si tu restes en France. Il faut rester une semaine, 10 jours, quoi. Mais t'as vu qu'une région, alors qu'il y en a, 40, 50 de régions minimum. Et tu peux pas tout voir. Et après, c'est aussi leur culture. C'est-à-dire que ils ont une culture qui est très, beaucoup de sports individuels très très forts, du sport dans les sports co, ça monte au volley, au basket, mais dès que tu dépasses un certain nombre de joueurs, ça devient plus compliqué, parce qu'ils sont beaucoup éduqués techniquement. Si tu prends un joueur de l'équipe nous qu'on avait en 19, individuellement un par un, c'était impressionnant ce qu'ils pouvaient faire des fois en jonglerie, en tour du monde, en plein de choses, je sais pas comment ils appellent ça les jeunes. Et puis dès que tu rajoutais un deuxième à 3 ou à 4 en jonglerie, ça devenait une catastrophe à partir de 4, quoi.
Ah d'accord. Donc, finalement, c'est pas le nombre de personnes, c'est pas un atout, quoi. Peut-être même ce qui...
Non, c'est aussi un handicap, parce que c'est immense. Alors, on voit des fois des pays où il y a que 3-5 millions d'habitants, et on voit qu'ils arrivent à faire la Coupe du Monde, à faire des choses, la Croatie, c'est ça qui est important aussi à voir. C'est pas toujours la masse, hein. La masse, des fois, c'est bien, mais, et puis il y a aussi la culture et puis le travail de fait. Les Japonais, beaucoup de pays asiatiques ont travaillé avec des entraîneurs japonais et étrangers sur, à long terme. En Chine, on arrête souvent très très vite, dès qu'il n'y a pas trop de victoires, quoi.
Ah oui, la culture des résultats. Je paye, mais je veux des résultats rapidement.
Exactement, et ça c'est, voilà, tu peux pas avoir des résultats rapidement. Tu peux payer tous les meilleurs entraîneurs du monde, et puis en Chine tu peux pas avoir. Il faut prendre le temps, il faut chercher, il faut donner une culture, il faut donner un projet de jeu, c'est long, c'est très très long.
Didier, je te remercie d'avoir
merci
répondu
à vous.
Présent à l'appel
merci
de Radio Calvi Citadelle.
Tout ce que vous faites là, je regarde, j'avais vu la première avec Pierre et avec Didier et Vicarel.
Donc,
c'est super, et Thierry aussi. Ouais.
Bien sûr. Nous, on va essayer de ce soir. Donc, bien sûr, il y a la prochaine de foot de sport avec Pierre et Jo.
Ouais.
On te rappellera éventuellement pendant cette Coupe du Monde. pour avoir un point de vue tactique, pour avoir un point de vue tactique, parce qu'on va faire un suivi quand même de l'équipe de France. Donc, avoir quand même un professionnel qui nous donne son avis, ce sera peut-être pas mal. Donc, si tu l'acceptes, on reviendra vers toi.
Avec plaisir, c'est gentil. C'est cool. Avec plaisir, j'essaierai de donner ce que je peux donner.
Merci Didier, je te souhaite une bonne journée.
Merci à vous, bonne journée,
bientôt.
Je vous embrasse tous à Calvi.
Au revoir.
Didier Santini à l'instant. On a gardé un super souvenir et c'est un gars en plus vraiment au top.
Ah, c'est un gars en or. Alors moi je vais vous dire.
Même quand il était en Chine, il nous envoyait des messages.
À l'époque, moi je n'étais qu'un vulgaire petit animateur sur une web radio obscure.
Oui. La cave radio.
La cave web radio.
Qui existe toujours ou pas en fait?
Alors, elle est en stand-by. Tu le sais très bien. Le monde associatif, c'est compliqué.
C'est compliqué, c'est vrai.
Voilà. Donc du coup,
est compliqué, mais regarde, il y a des moments de joie et regarde, on a réussi à récupérer l'un des animateurs
phare de la cave web radio. Il y a eu un gros transfert entre la cave web radio et Radio Calvi Citadel. Non, mais je l'avais eu en tant qu'invité à la cave et ça avait été un moment extraordinaire de partage parce qu'on avait vraiment. D'ailleurs, ce sera peut-être intéressant de la refaire parce que sûrement que les auditeurs d'RCC seraient intéressés de voir le parcours de Didier. Voilà, il y avait des anecdotes, il y avait des trucs. On se rend pas compte quand même de la chance qu'on a eu d'avoir un professionnel comme ça à la tête du club qui a mené d'ailleurs le club
parcours.
Qui a mené le club vraiment deux fois. Calvi n'avait jamais gagné la Coupe de Corse et ça s'est fait sous son air. Donc véritablement voilà, quelqu'un d'adorable, de gentil, toujours disponible,
passionné.
Donc et passionné, surtout passionné. Ça c'est très important. Donc on remercie Didier. Et voilà, chers auditeurs, c'était la troisième. Vendredi, j'ai le présentateur de Foot de Sport, Pierre Moulard. Voilà, Pierre Moulard, c'est ma génération, c'est grand buteur. Donc, on a un peu échangé quelques balles. Il pourra parler, lui, de mon niveau, aux gens, de peut-être rétablir certaines vérités, ou en tout cas, contre-vérités. Donc ce sera Pierre qui nous donnera son avis. Alors je rappelle toujours donc là Thierry et Didier ex aequo puisqu'ils ont mis en tout cas la France et le Brésil en finale. Il y a que Maxime qui lui a été un peu plus
J'espère que tu notes tout ça hein.
Bien sûr.
Parce qu'à la fin ils vont gagner un cadeau, hein, c'est ça?
À la fin ils gagnent un cadeau effectivement.
Mais si un
Eh ben ce sera tirage au sort ou sinon on fera un quiz.
Comme l'auto.
On fera un quiz. Moi je déteste ces tirages au sort, c'est
La finale.
On fera
en
un
direct
quiz.
Sur RCC.
Donc ben non, c'est-à-dire que si la finale il y a plusieurs personnes qui sont mis d'accord, on demandera un buteur. On demandera un buteur. On va faire des gages comme ça. C'est voilà parce que là Thierry et il y a que Maxime qui a mis autre chose. Alors là, je crois que c'était l'Angleterre. Je crois qu'il a mis l'Angleterre et je sais plus qui. Voilà. Donc ça commence bien. Un beau bordel cette affaire.
On voit que tout est noté.
Ouais, mais parce que voilà, nous on est sur de l'artisanat. Voilà. Pays-Bas Angleterre, il a mis. Maxime a mis Pays-Bas Angleterre, il a pris des risques, mais c'est peut-être un risque qui va être payant. Parce que, rappelle-toi ce qu'a dit Didier, attention, l'Angleterre, à cette période de l'année, les joueurs sont habitués à jouer. Donc peut-être
que Maxime... Tu pourras dire, comme disait Didier.
Donc peut-être que Maxime, finalement, en mettant l'Angleterre, s'est peut-être pas trompé. Ah. Donc malin le Maxime. Donc, vendredi, ce sera Pierre Moulard.
Ce avec soir à 18h.
Votre serviteur. Ce soir, on n'oublie pas, 18h.
Foot de sport. En direct,
chers auditeurs, on est là... on travaille, vous imaginez pas, on travaille comme des fous derrière, en arrière-boutique, on est en train de monter des choses et tout. Ne vous inquiétez pas, on vous communiquera toutes les informations en temps et heure. En tout cas, des choses sont lancées et on va pas tarder à communiquer. Voilà, il faut relancer Seb Dominici pour la spéciale médicale.
Mais qu'est-ce
qu'il fout ? Parce qu'on pourrait faire en plus une médicale sport. Voilà,
ça serait bien.
Les croisés. Ah. Donc,
on peut même faire venir quelqu'un qui opère notamment les joueurs de l'OM que je connais très bien.
Ah bon ?
Eh oui.
Ah ben voilà.
Il a une maison là, il est en train de faire sa maison.
Ah, il est en train de faire sa maison, mais dis-moi, mais tu en connais des gens importants toi ? Ah ben, parce que je te rappelle, j'ai toujours pas de croisé à un genou, donc s'il peut faire une petite ristourne en plus.
Ah écoute, je sais pas, mais en tout cas, à mon avis, si tu le fais venir, t'auras même pas d'attente pour ton rendez-vous. Hein.
Ah ! Allez. C'est vendu, tac. Allez, donc n'oubliez pas.
Il va déplacer à Marseille ou à Paris, hein, par contre. Hein.
Ce soir, 18h. Oui. Et bien sûr, vendredi, on se retrouve. Peut-être que d'ici là, je repasserai le bout de mon museau dans les locaux d'RCC. Voilà, c'est ma deuxième maison en Haïti.